le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Le nombre d'abeilles en France est en déclin. Cependant, en 30 ans, on constate une augmentation de 90% des exploitations apicoles de plus de 150 colonies, alors qu'à l'inverse, les apiculteurs amateurs se font de plus en plus rares. Pour ce Ribin, nous irons à la rencontre de trois de nos apiculteurs finistériens, amateurs comme professionnels et même en cours de professionnalisation.
Alors, le métier d'apiculteur, il y a beaucoup de variantes au métier d'apiculteur. On a des apiculteurs de loisirs, on a des apiculteurs pluriactifs et on a aussi des apiculteurs professionnels. On a un peu tout ça dans le département et dans ailleurs en France aussi.
Denis Jaffray, apiculteur du côté de Locmélard.
L'apiculture, c'est d'abord et avant tout très souvent une passion. Moi, je suis tombé un peu dans la marmite comme Obélix hein, quand... J'avais quelques années seulement, mon père avait quelques ruches au fond du jardin, en presqu'île de Crozon, et puis ça m'a toujours suivi. Maintenant j'ai 70 ans et j'ai toujours des abeilles. Autrement dit, les abeilles ne m'ont jamais quitté. Et ça, c'est un point important pour indiquer à quel point la passion est quelquefois dévorante. Et puis malgré tout ça, malgré toutes les problématiques qui se posent aux abeilles à l'heure actuelle, j'ai toujours des ruches et je tâcherai d'en conserver jusqu'à ce que j'en puisse plus. Alors... C'est plutôt au départ un métier passion, bien évidemment. Mais lorsque je suis arrivé en retraite dans les années 2000, l'avantage, c'est qu'après une grande carrière dans la marine de une trentaine d'années, et arrivé à la retraite, donc, je me suis mis un petit peu plus à fond dans l'apiculture, puisque mon nombre de ruches n'a cessé d'augmenter, jusqu'à arriver à 120 ruches. Et pendant plusieurs années, donc j'ai commercialisé ces produits et j'ai toujours un tout petit peu de production, mais j'ai beaucoup réduit suite à des problématiques, notamment liées à la présence du frelon asiatique qui a vraiment impacté l'apiculture en général, hein, qu'il s'agisse des petits apiculteurs, mais également ceux qui possèdent beaucoup de ruches, puisque à l'heure actuelle, malheureusement, justement, c'est plutôt les petits apiculteurs qui disparaissent. Parce qu'en étant petit, l'impact est plus fort sur quelques ruches que sur des gros ruchers de 25 ou 30 ruches. Donc souvent, les petits apiculteurs qui réalisent quelque part le maillage du territoire par leur répartition sur le terrain, ben, font qu'ils disparaissent. Et donc c'est la pollinisation, celle qui est assurée en tout cas par les abeilles mellifères, qui en pâtit énormément. Parce que quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus rien à faire, les abeilles disparaissent. Et puis après, bah, ce sont les pollinisateurs sauvages qui sont impactés par le frelon asiatique.
Alors pour moi, un apiculteur, c'est quelqu'un qui accompagne les abeilles.
Benoît Guéganton, apiculteur amateur qui lance son exploitation professionnelle à Saint-Couli.
Parce qu'en fait, c'est les abeilles qui travaillent. Nous, on est juste là pour les aider et leur proposer un endroit chouette où butiner. Enfin, voilà, essayer de s'en occuper au maximum, quoi. Tout en respectant au maximum leur rythme. Et, voilà. Donc, il ne faut pas leur prendre trop de miel, il ne faut pas les exploiter. Enfin, il ne faut pas les exploiter. On les exploite forcément un petit peu, mais disons que moi, je travaille en plus avec l'abeille noire. Donc elle est plus compliquée, un peu plus paresseuse, disons, en début de saison. Mais elle a tendance à garder beaucoup de réserves pour elle et produire un petit peu moins. Donc voilà, je sais que ça rentre dans ma philosophie quoi, de travailler avec l'abeille noire, c'est que l'abeille noire, ça va être, elle pense comme ça, c'est la ruche, la colonie d'abord. Quoi. Donc d'abord, elle fait beaucoup de réserves. Et vraiment, si elle en a trop, elle le monte dans les hausses et du coup, l'apiculteur peut le récupérer. Mais c'est pas une abeille productiviste.
Ah ben, le métier d'apiculteur, il est très complexe. C'est le fait de conduire des colonies d'abeilles pour les développer, puis produire les différents produits de la ruche qu'on va retrouver, comme le miel, la propolis, la cire aussi.
Georges Matzeff, apiculteur sur la pointe d'Armorique.
Ça peut aussi être construire son matériel, ça peut aussi être travailler avec son environnement, donc l'entretenir, avec différents acteurs aussi, des producteurs sur place, ou des gens qui vont transformer le miel, comme des restaurateurs ou des points de vente. Donc apiculteur, c'est beaucoup de choses, hein. C'est commercial, c'est un peu agriculteur, c'est un peu éleveur, c'est conditionneur, c'est plein de choses. Communicant.
Et donc, c'est quoi la motivation qui vous a amené à faire ce métier ?
Alors moi, ma motivation première, c'était la quête d'un idéal, quelque chose d'absolu. La beauté des abeilles m'a bouleversé la première fois que je les ai vues. Et j'ai tout de suite voulu faire quelque chose de... on dit que la perfection n'existe pas, mais faut avoir regardé dans une ruche avant de dire ça, parce que la perfection, on en est très très proche. Et en soi, c'est déjà très émouvant, et voilà, j'ai eu cet élan... poétique, on va dire, un peu idéaliste, de conduire des colonies d'abeilles en Bretagne, sur une petite presqu'île préservée, des cultures modernes. Et puis, surtout avec des partis pris forts, parce que je ne suis pas du tout sur une conduite productiviste, mais je suis beaucoup dans le respect du vivant, c'est-à-dire que je nourris au miel, donc c'est aussi une implication sanitaire. Je travaille sur une presqu'île où il n'y a pas de culture, donc on a aussi des rendements qui sont faibles, mais on a des miels très particuliers.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des ruches ? Qu'est-ce qu'une ruche ?
Ah ben, une ruche, alors déjà, il y en a différents types. Une ruche, c'est l'habitat des abeilles. La ruche, c'est vraiment le corps de vie de l'abeille où la colonie va se développer. Une reine va y pondre des œufs que des nourrices vont transformer, aider à transformer en larves puis en abeilles. Elles vont y stocker leurs ressources comme le pollen, le miel, et fabriquer de la cire pour le conditionnement de ces ressources qu'elles durent dans le temps. C'est vraiment l'habitat de l'abeille. Artificiel, puisque habituellement les abeilles vivaient plutôt dans des troncs d'arbres ou des cavités, ce genre de choses. Donc nous, apiculteurs, on utilise différents types d'habitats qu'on appelle ruches. Par-dessus, ceux qui produisent du miel vont venir rapporter des compartiments qu'on appelle hausses, et où les abeilles vont stocker uniquement du miel qui sera récolté, conditionné, puis vendu derrière.
Et les abeilles, vous nous parliez de pollen, en quoi elles permettent la pollinisation ?
Alors, les abeilles permettent la pollinisation parce que les fleurs, ces grosses malines au fil de l'évolution, ont élaboré des stratégies de reproduction. Et donc, elles séduisent les abeilles et puis d'autres pollinisateurs en sécrétant un liquide sucré qu'on appelle le nectar. Alors, certaines fleurs seulement, parce qu'il y a des fleurs qui sont nectarifères, donc elles produisent du nectar. Certaines sont pollinifères, elles produisent du pollen. Certaines ne produisent ni l'un ni l'autre. Et certaines produisent les deux. Donc c'est pour ça que les gens voient en plein été, au mois de juillet, fin juillet, il y a beaucoup de fleurs dans la nature, toutes ne sont pas mellifères. Toutes ne produisent pas soit du nectar, soit du pollen. Et donc voilà, il y a des périodes où il peut y avoir des fleurs, mais il y a moins de ressources disponibles pour les abeilles, les pollinisateurs en général. Mais le rôle des abeilles par rapport aux fleurs, ça va être de transporter leurs gamètes sexuelles, le pollen, d'une fleur à l'autre.
Et mellifères ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ?
Ah, mellifère. Donc, alors, étymologiquement, je ne sais pas si je vais pouvoir le déconstruire, mais une plante dite mellifère, c'est qu'elle produit soit du nectar, soit du pollen, soit les deux.
Et donc, quel produit, quel genre de produit tu fais en transformant le miel ?
Eh ben, je vais pas tout dévoiler parce que voilà, c'est garder quelques secrets, mais pour l'instant, j'ai aussi bien des produits classiques type bonbons, nougat, pain d'épices, mais je travaille aussi sur d'autres choses comme du sirop de miel ou de la pâte à tartiner, voilà.
Pas juste du miel en pot, quoi.
Non, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'avec le miel, on peut faire une multitude de produits différents. Je rencontre beaucoup de gens qui n'aiment pas les bonbons au miel, mais voilà, ils aiment bien le pain d'épices. Ceux qui n'aiment pas le pain d'épices mangent du nougat, enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et aussi bien les enfants que les personnes âgées, voilà, il y en a pour tout le monde, quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette épopée un peu, comment ça t'est venu d'acheter des ruchers, de te lancer ?
Eh ben, donc j'étais employé à l'époque à Carré, et du coup avec un collègue on a décidé de prendre des ruches ensemble, juste quelques-unes, voilà, 3-4. Et donc c'est à ce moment-là, en m'occupant de ces ruches-là, que je me suis rendu compte que ça cochait vraiment tout ce que j'avais fait avant, enfin tout ce que j'avais aimé faire dans les jobs d'avant. J'ai jamais trouvé un job qui me correspondait à 100% dans tout ce que j'ai fait. Mais je me suis rendu compte que l'apiculture, ça prenait vraiment tous les petits bouts chouettes que j'avais trouvés dans mon expérience d'avant. Ensuite, ma première récolte de miel, donc c'était à l'été 2023. J'ai fait un miel de sarrasin. Et pour rigoler, on l'a envoyé à un concours de miel à l'abbaye finistérienne. Là. Et on a remporté une médaille de bronze au milieu d'apiculteurs qui en ont 500 ruches. Quoi. Donc on s'est dit, punaise, en fait, c'était hyper valorisant, ça fait du bien. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, il faut vraiment que je fasse ça. Et puis les abeilles ont besoin d'aide. Enfin, voilà, c'est quand même pas facile pour l'apiculture. Donc j'ai décidé de quitter mon emploi et de me former pendant un an à côté de Poitiers, là, dans une école. Donc j'ai passé un BPREA apiculture. Et ben, dans le BPREA, il y a une bonne partie, bien sûr, apiculture, donc un peu théorie, pratique, tout ça. Il y avait aussi toute une partie transformation où on apprend. Donc voilà, j'ai la formation HACCP pour pouvoir travailler en cuisine, enfin voilà, toutes les normes et tout ça. Mais il y a aussi toute une partie de gestion, compta, d'une entreprise agricole. Donc c'est vraiment complet. Après un an de formation, on sait gérer une entreprise agricole et avec tous les aspects apiculture en plus, quoi.
Et ça te fait pas peur de te lancer comme ça en solo dans cette aventure ?
Non, j'aime bien. Et puis on a plein d'abeilles avec moi, donc je suis pas vraiment tout seul. Mais moi j'adore monter plein de projets. Voilà, je fais plein de choses à côté d'associatif et tout, donc j'aime vraiment bien ça. Et vraiment, l'apiculture, ça coche vraiment tout ce que je veux faire, donc il y a aucun problème là-dessus.
Acheter des essaims. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Comment ça se passe ?
Quand on est apiculteur, on peut, on a la chance dans l'agriculture. On est quand même les seuls à pouvoir faire ça. On peut couper une ruche en deux. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait on a une colonie d'abeilles, si on la coupe en deux, la partie qui se retrouve sans reine va en faire une nouvelle. Du coup avec une seule ruche on peut en faire deux. Bon, là, je schématise et je grossis le trait pour les néophytes, mais en gros avec une ruche on peut en faire deux. Mais ça prend du temps parce que du coup la ruche qu'on coupe en deux entre guillemets, du coup il faut qu'elle se remette, enfin qu'elle se redéveloppe. Et en général, la ruche qu'on divise, elle produit pas de miel ou très peu quoi dans l'année. Donc là mon idée c'est que comme je vais essayer de gagner un petit peu plus de temps, donc je divise toujours mes ruches, enfin j'essaye de diviser en tout cas les bonnes colonies. L'idée c'est d'en acheter un petit peu à un autre apiculteur pour gagner un peu plus de temps. Là, du coup, lui a donc divisé ses ruches l'année dernière. Enfin, c'est un apiculteur du coin, là, qui est en bio. Et lui, qui divise tous les ans, qui fabrique des essaims. Et en fait, du coup, avec cette manière-là, il crée des essaims et il les revend.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, le label bio en apiculture ?
Alors, le label bio, il y a quelques points quand même à respecter. Déjà, c'est au niveau nourriture pour les abeilles. Donc, faut savoir que les abeilles, bon, globalement, elles se nourrissent toutes seules, à peu près. Mais dans les périodes compliquées, comme à l'automne, début d'hiver et au printemps, des fois, il faut les nourrir un peu. Donc, avec du sirop, du sucre, enfin, du sucre avec du sucre, on fait du sirop. Donc quand on est en bio, bien sûr, le sucre ou le sirop qu'on achète tout fait doit être labellisé bio, déjà. Donc ça a un surcoût pas négligeable. Ensuite, en bio, on est obligé d'utiliser des ruches en bois, tout en bois quasiment, sauf le plancher. Mais donc voilà, donc, déjà, on ne peut plus prendre du tout de matériel en plastique, comme ça se fait beaucoup. Pour les produits de traitement, parce qu'il y a quand même quelques parasites, maladies qu'il faut quand même bien surveiller et soigner, il y a toute une... On a une liste de produits autorisés en bio, mais elle est assez restreinte et un petit peu moins efficace. Donc voilà, faut travailler autrement, en tout cas, pour aider un peu les abeilles à lutter. Et il faut faire attention aux rayons de butinage, surtout. Donc là, il faut faire attention à ce que 3 km... Dans un rayon de 3 km autour d'une ruche, la majorité des surfaces cultivées soient labellisées bio.
Et tu n'as pas eu peur au début de te faire piquer par des abeilles ?
Il y a forcément un petit peu d'appréhension au début, mais non, ça va, bien équipé. Et une fois qu'on est détendu, en fait, au début on se fait piquer un petit peu. J'ai la chance de ne pas être allergique, donc ça c'est chouette déjà. Ensuite... j'ai fait un stage chez un apiculteur, je me suis fait énormément piquer. S'il écoute ça, cet enregistrement, il saura que c'est lui dont je parle. Mais en fait, je pense que ça venait, quand j'ai bien analysé, ça venait du fait que c'était pas mes colonies, c'était pas mes ruches. Du coup, j'étais un peu plus stressé, j'aime pas trop... j'essaie de faire attention au maximum quand je m'occupe d'une autre ruche qui est de quelqu'un d'autre. Et du coup, comme j'étais moins à l'aise, je pense que mes gestes étaient moins fluides et je pense que ça se ressentait. Je pense que les abeilles ressentent beaucoup le stress et quand on a un petit peu d'appréhension. Du coup, typiquement, j'allais passer une journée chez lui, je me faisais piquer 40 fois et je retournais le soir chez moi, je me faisais pas piquer, quoi. Donc il y avait quand même un truc. Et c'est effectivement quand on est détendu et que c'est nos abeilles, ça va.
Et elles sont pacifiques entre elles, entre colonies ?
Pacifique, elles font chacun leur petit train-train, quoi. Mais bon, après, une abeille, ça peut pas se promener de ruche en ruche, quoi. Enfin, sauf le mâle. Mais là, on rentre dans des techniques d'apiculture un peu pointues, mais disons que dans les castes, les différentes castes d'abeilles, il n'y a que le mâle qui peut se promener de ruche en ruche allègrement.
Les colonies d'abeilles des apiculteurs sont confrontées à de nombreux dangers et problèmes. On découvre lesquels.
Le frelon, c'est l'ennemi numéro un, on va dire quoi. C'est l'ennemi à abattre. Mais à part le frelon, moi pour l'instant, j'ai pas beaucoup de ruches, donc je peux pas confronter à beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, à part le frelon, pour l'instant, c'est vraiment le varroa, qui est quand même un parasite important dans la ruche. C'est vraiment les deux seuls à surveiller.
Ah ben, le frelon, moi, ça fait 10 ans que j'y suis confronté. Et l'impact, il a été divers et varié sur les 10 années. Les deux premières, on l'a juste vu son installation, en fait, très progressive. Et la troisième année, on a été... Alors, le département le plus touché de France, et nous, on a été la commune la plus touchée du département. Donc, instinctivement, j'ai cherché des moyens de lutte, comme le piégeage. Alors il y a 7 ans, du coup, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui sur le piégeage. Mais par contre, j'ai acheté moi-même des pièges, plusieurs centaines. J'ai adjoint un mode d'emploi parce que ces pièges n'étaient pas sélectifs et que pour moi, c'était quand même un enjeu majeur, la sélectivité. Donc, bon an, mal an, moi, ce que j'ai remarqué à l'époque, c'est que quand une reine frelon rentrait dans un piège, d'autres insectes ne rentraient pas dedans. Ah oui, la pression, elle est de plus en plus forte. Au niveau du frelon, cette année, c'était spectaculaire. C'est du jamais vu pour moi, quoi. Donc, je sais pas, dans les autres régions de France, même de Bretagne, comment ça s'est passé. Mais c'est sidérant. Et je pense que déjà, cette politique de l'autruche à pas détruire les nuits quand on les trouve à l'automne, déjà, c'est un peu scandaleux. Malgré l'effort, le dispositif est mis en place. Mais bon, quel impact il a réellement, je sais pas. Et puis quel coût aussi, hein, parce que faire venir des désinsectiseurs, c'est quand même le coût de l'intervention assez élevé. Donc. Ouais, et puis la menace, elle n'est pas unique, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une addition de menaces. Donc, en soi, cette addition, elle est trop lourde maintenant. Elle devient vraiment trop lourde. Il y a d'autres menaces, il y a le frelon orientaliste qui arrive. Il y a l'Athenia tumida, qui est un petit coléoptère qui fait des ravages en Italie, mais considérables. Hein, un petit peu comme les vaches chez les éleveurs, on élimine les cheptels par le feu. Et on brûle des cheptels entiers. L'herbe de la pampa aussi, qui est en train de coloniser complètement le milieu ici, d'une manière mais vraiment brutale, qui est très difficile à éradiquer. Donc je pense que si vous attendez à voir des abeilles dans les 20 ans qui viennent, vous êtes très 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 optimiste quand même.
Et en tant qu'apiculteur, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une ruche, quand on retourne sur le lieu d'une ruche et qu'on voit toute sa colonie en fait abattue?
Oui, alors c'est assez fréquent que des apiculteurs, quand ils viennent faire leur visite de printemps, malheureusement, ils retrouvent des ruches qui sont vides, tout simplement parce qu'elles ont été vidées Elles ont été, certaines ont été tuées directement à l'automne, c'est-à-dire qu'il y a trop de frelons et elles sont anéanties complètement, sont détruites. Mais il y en a beaucoup qui ont pu être impactées, mais qui ont simplement été impactées par le nombre d'abeilles qui est devenu extrêmement réduit. Et à ce moment-là, malheureusement, une petite colonie a du mal à passer l'hiver parce qu'il n'y a pas assez de température créée par la grappe. Et elles meurent de froid. Si le froid est un petit peu tenace, elles n'ont plus les capacités de conserver la vie à l'intérieur de la grappe.